qui a écrit une épître. Alors, il en a peut-être écrit plusieurs, mais il y en a une qui se trouve dans la Bible, qui nous a été transmise, qui fait partie de la parole de Dieu. Et c'est cette épître qu'on va étudier. Hein, Laurence rappelait ce fil conducteur qu'on a eu autour de l'année, autour de comment est-ce que je suis croyant là où Dieu me place. Hein. On l'a vu avec Daniel, on l'a vu avec Jésus, on le voit avec Jacques. On va lire le texte, il est un petit peu long, c'est tout le chapitre 1 de l'épître de Jacques, si vous voulez suivre dans vos Bibles, vous pouvez. Moi, je vais demander à Monique, est-ce que tu peux lire le texte pour nous, s'il te plaît? Si vous préférez écouter, c'est très bien aussi. La Bible a été faite initialement pour être lue, donc il n'y a aucun problème à l'écouter.
Dans la version du Semeur 2015. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée et soulevée par le vent. Quel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur ? Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Que le frère ou la sœur pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève et le riche de ce que Dieu l'abaisse. En effet, il passera comme la fleur des champs. Le soleil se lève, sa chaleur devient brûlante et la plante se dessèche. Sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. Ainsi en est-il du riche. Il disparaîtra au milieu de ses activités. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente » car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous pensons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères et sœurs. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de nous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure, aux yeux de Dieu le Père, consiste à aider les orphelins, les veuves, dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde.
Voici donc pour la lecture de ce texte, pour ce premier chapitre, ce qui marque, ce qu'on peut remarquer immédiatement quand on lit l'épître de Jacques, c'est que c'est assez facile à comprendre. Je dirais même que c'est facile à comprendre, assez direct. On peut, à la lecture, comprendre les exhortations, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous demande. Mais c'est touffu. Et parfois, on fait le reproche à cet épître d'être un peu décousu avec des thèmes qui s'enchaînent comme ça. Du coup, c'est utile quand même d'avoir un temps où on ne lit pas juste le texte, mais on essaye de le comprendre ensemble et de mieux plonger dedans. Déjà, j'aimerais commencer par un peu de contexte, parce que l'introduction est très courte, hein, un verset. C'est bien de connaître l'auteur, Jacques, et il donne aucun renseignement sur lui. S'il donne aucun renseignement sur lui, c'est certainement qu'il était connu de ses auditeurs. Et on identifie souvent Jacques au frère de Jésus, un des responsables de l'église de Jérusalem. Il était connu, Paul dit que c'est un des piliers de l'église de Jérusalem, c'est un des dirigeants. Et on pense que cette lettre a été écrite très tôt, vers 40 après Jésus-Christ. Jésus, il est mort à 33-34 ans, vous faites le calcul. Cette lettre a certainement été écrite dans la première décennie après sa mort et sa résurrection. Sans doute avant l'ouverture de l'Évangile aux nations, on pense que c'est la première lettre qui a été écrite aux églises. Elle est écrite aux 12 tribus qui sont dispersées. Les 12 tribus, on pense à Israël, et pour Jacques, l'Église, c'est la continuité du peuple de Dieu. Mais il y a un adjectif qui a retenu mon attention, c'est les 12 tribus qui sont dispersées. Et si vous vous souvenez du livre des Actes des Apôtres, des débuts de l'Église, l'Église, elle commence, elle est florissante, les gens, ils aiment être ensemble, passer du temps, le partager, étudier la Bible, partager tout ce qu'ils ont. Et puis, il y a une persécution qui se met en place. Il y a Étienne, un des responsables de l'Église, qui est tué. Et à partir de ce jour, c'est ce qui est écrit au chapitre 8, verset 1, chapitre 8 d'Actes des Apôtres, à partir de ce jour, une violente persécution se déchaîna contre l'Église qui était à Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. L'Église s'est dispersée. Pour fuir la persécution, tous ces gens qui voulaient tuer les chrétiens avec qui ils n'étaient pas d'accord, prudemment, ils se sont dispersés, chacun dans la ville d'où ils venaient. Hein, la semaine dernière, avec Benjamin et Lula, Benjamin nous rappelait la Pentecôte, tous les juifs pieux qui venaient dans la ville pour fêter cette fête importante, qui se sont convertis, qui ont fait cette première église, et là, eh ben, ils se dispersent, ils retournent chez eux. Ce n'est pas que des détails historiques. Moi, je trouve utile de savoir à qui Jacques écrit. Il écrit déjà à des gens qui sont dispersés. Ils ont vécu quelque chose de chouette tous ensemble. Vraiment, c'était stimulant et il y a eu un coup d'arrêt et ils sont isolés. Deux par deux, petite dizaine à un endroit, ça a perdu de l'élan quand même. C'était chouette d'être chrétiens ensemble. Et là, bon, faut être convaincu pour continuer, parce que c'est moins drôle là où on est rentré. Et puis, il n'y a pas d'église là où ils vont. Il y en a une qu'à Jérusalem. Enfin, c'est le tout début, donc bon, ils vont à la synagogue, mais ils sont avec des gens qui ne partagent pas leur foi, qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Donc, ils sont comme ça, un peu au milieu d'un monde religieux, mais qui ne croient pas comme eux. C'est à eux que Jacques écrit, à des gens qui sont en minorité et même au milieu de leur communauté spirituelle. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Résiste. Résistez. C'est le premier message que je vois dans ce chapitre que nous avons lu. Résistez à l'épreuve et à la tentation. Épreuve, tentation, il y a un seul mot en grec. Donc, selon la traduction que vous prenez, là, celle qu'on a prise au début, c'est traduit épreuve, après c'est traduit tentation, mais dans certaines traductions, c'est traduit épreuve partout. Pourtant, en français, il y a une différence entre épreuve et tentation. L'épreuve, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Il y en a plein dans la vie. Il y a plein de problèmes qui nous arrivent, de choses qu'on ne maîtrise pas et qui sont difficiles. Bon, là, ils ont été persécutés, ils ont dû partir, c'est une épreuve. Il y a des épreuves plus simples. Je donnais un exemple avec quelqu'un avec qui je discutais. J'habite en centre-ville, je veux me garer pour rentrer chez moi, il n'y a pas de place, c'est une épreuve. Elle n'est pas très grosse, hein, je m'en remettrai. Mais quand même, une difficulté. Des difficultés de toutes sortes qui nous arrivent. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, écrit Jacques, résister. La tentation, c'est pas la même chose. La tentation, elle a un but, celle de nous faire tomber, celle de nous faire craquer. Tomber dans le péché, tomber dans ce qu'on estime ne pas être bon, dévier de la route qu'on veut prendre. Et si l'épreuve, elle arrive, elle fait partie de la vie, la tentation, c'est autre chose. La tentation, Jacques dit, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui nous vient de Dieu, la tentation, ça vient de nous, ça vient de nos désirs. C'est face à une situation, les désirs que j'ai en moi, j'ai envie de le suivre. Plutôt que de faire ce qui est bien, j'ai envie de faire ce qui me fait plaisir, ce qui me paraît un gain immédiat, ce qui me paraît plus facile, que sais-je, mais ce dont je sais n'être pas bien. Elle est là, la tentation. Je vais reprendre un autre exemple avec une voiture. Je récupère ma voiture, qui était garée, elle a été abîmée parce que, sans doute, quelqu'un s'est mal garé, l'a accroché, et il est reparti sans laisser de mots. C'est une difficulté, c'est une épreuve qui m'arrive, qui me tombe dessus. Maintenant, c'est moi qui me gare, et puis je ne fais pas attention, je ne maîtrise pas mon véhicule, et j'accroche la voiture de quelqu'un d'autre. Personne ne m'a vu. La tentation, c'est que je pourrais partir sans laisser de mots. Deux choses différentes. L'épreuve qui arrive toujours, la tentation avec ce désir qui est en moi, désir de facilité, auquel je me pose la question. Est-ce que je résiste ou est-ce que je cède à cette facilité? Et la résistance demandée n'est pas la même. Face à l'épreuve, ce que Jacques encourage à faire, c'est endurer, l'endurance. C'est à faire avec, et à faire avec sans perdre la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est faire confiance à Dieu. Confiance, quelles que soient les circonstances. Et donc l'endurance qui nous est demandée, c'est malgré les circonstances, malgré l'épreuve, continuer à les faire confiance. Je lisais il y a quelques mois un livre d'un pasteur anglais, Rob Parson, et il y a cette phrase qui m'a vraiment attrapé. Il parle de personnes qui pourraient dire « Depuis que je suis devenu chrétien, ma vie est pire. Ma famille se passe des temps difficiles, mes affaires ne vont pas bien, je ne peux pas continuer à croire. » Mais quelqu'un d'autre, dans des circonstances encore pires, dit « Que Dieu soit loué de ce que je le connaisse, si ce n'était pas le cas, je ne pourrais pas traverser tout cela. » C'est à cette résistance que nous sommes appelés à tenir bon face à l'épreuve. Alors que face à la tentation, nous sommes amenés à tenir ferme, à ne pas céder, ne pas succomber à cette attraction vers quelque chose de plus facile, de plus immédiat que ce qu'on croit être bon, de ce qu'on sait être bon. La lutte n'est pas la même. Face à l'épreuve, on a tendance à vouloir fuir. Jacques nous appelle à faire face. Mais face à la tentation, on a tendance à vouloir y rester, s'y complaire, y céder. Il nous dit au contraire de la fuir. Heureux. Heureux celui qui fait face à l'épreuve. Heureux celui qui résiste à la tentation. On peut lire Jacques en étant heurté, parce que Jacques dit souvent « il faut ». Mais il met ce côté positif aussi. Heureux, heureux celui qui tient ferme. Heureux celui qui résiste. Heureux parce qu'il fait de mieux en mieux, parce qu'il s'entraîne. C'est comme dans le sport. Quand j'ai voulu me remettre au sport, ça faisait tellement longtemps que je n'en avais pas fait. Je suis allé au CESO, et puis j'ai suivi les conseils qu'on m'a donnés. J'ai fait un tour de piste en courant, et puis un tour de piste en marchant. Un tour de piste en courant et un tour de piste en marchant. Franchement, je ne pouvais pas faire plus. Et puis après, je me suis mis à courir de plus en plus. Et cet entraînement permet de faire toujours plus. Et c'est un peu comme si Jacques présente une double spirale, une spirale montante. Plus je résiste, plus je travaille, plus je deviens adulte, plus je progresse. Mais aussi une spirale descendante. Si je cède, si je craque, je m'enfonce. Si je cède toujours à la tentation, alors, il nous dit, la tentation mène jusqu'au péché qui mène jusqu'à la mort. Mais il y a une vraie joie à progresser. Une vraie joie de réussir à dompter son corps, à dompter ses envies pour faire ce qu'on veut. Comment faire? Comment faire pour avancer sur ce chemin? Il y a besoin de sagesse, et c'est le deuxième point, la sagesse. Et là, il y a une bonne nouvelle, c'est ce verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui lui donnera. Car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il n'y a pas de reproche. Oh non, tu me demandes ça encore, mais... bouge-toi. Non, sans reproche. Quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, j'ai lu ce verset. Quand on est jeune, on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? C'est des questions que vous posez? Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Est-ce que je lui demande ce qu'il veut? Parce que si je lui demande ce qu'il ne veut pas, il ne va pas me le donner. Ça me travaillait énormément. Et quand je suis tombé sur ce verset, c'était le repos. demande la sagesse, il la donne. Eh bien, très bien, je vais commencer par donner ça, par demander ça, comme ça je recevrai ça. Un premier pas, ce sera fait. Demander la sagesse, mais ne pas douter. Pour bénéficier de l'aide de Dieu à travers cette sagesse, il faut se tourner résolument vers lui, sans douter. Agir ainsi, c'est prendre les commandes de sa vie, cesser d'être ballotté un coup à gauche, un coup à droite, comme soulevé par le vent. Et je pense à plusieurs personnes que j'ai croisées et qui ont un élan. J'ai envie de travailler, j'ai envie d'avoir un suivi, d'avoir des rendez-vous toutes les semaines, toutes les deux semaines. J'ai envie de m'engager dans un groupe de maison, dans un groupe de croissance. Et puis qui, au bout d'un mois ou deux, n'arrivent pas à le tenir. Quand vous vous engagez, dit Jacques, soyez persévérant, parce que si vous demandez la sagesse sans continuer sur ce chemin, vous êtes comme quelqu'un qui se laisse flotter au gré des vents. Un homme comme ça, il n'obtiendra jamais rien. Persévérez. Persévérez dans votre recherche. Également, mettez-vous à l'écoute. Sachez écouter. Toujours prêt, qu'un homme soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Ne pas se hâter de parler. On comprend, il faut se taire pour écouter. Mais aussi ne pas se mettre en colère. Cette dernière attitude, se mettre en colère, est la pire façon de ne pas écouter, parce que en colère, même quand on ne parle pas, la colère, quelque part, elle coupe notre capacité d'écoute. La colère, ce n'est pas un péché. La colère, c'est une émotion qui vient me dire comment je ressens les choses. Mais si la colère me dirige, si c'est à travers elle, par elle, que j'accomplis les choses, alors je ne contrôle plus les choses. C'est la colère qui me contrôle. Je n'utilise plus la sagesse. J'agis avec une vision brouillée. C'est pour ça qu'il dit « Débarrassez-vous de tout ce qui vous souille et de tout ce qui reste de méchanceté » parce que lorsqu'on garde la méchanceté en nous, c'est ça qui va sortir quand on perd le contrôle. La colère, elle n'est pas mauvaise, mais si je suis méchant, c'est ma méchanceté qui va ressortir quand je suis en colère. Pourquoi est-ce que je garderais de la méchanceté ? Je constate qu'il y a une certaine jouissance à garder un peu de méchanceté. Bon, je ne l'exprime pas à l'extérieur. Mais quand quelqu'un m'a fait du mal, m'a fait un sale coup, j'aime bien ruminer, j'aime bien imaginer ce que je pourrais faire pour me venger. Je ne le fais pas, mais quand même, ça me fait du bien d'imaginer ça. Je me dis, je me maîtrise, mais si je voulais quand même, je pourrais me défendre, je pourrais faire un truc. Débarrassez-vous de ça, dit Jacques, pour que ce qui sort ne soit pas des choses que vous regretteriez. Au contraire, la parole qui a été plantée en chacun de nous, au moment où elle a été prêchée, au moment où on l'a écoutée, cette parole a le pouvoir de nous sauver. On connaît le salut. On sait que quand on est chrétien, Dieu nous promet d'être sauvé une fois pour toutes. Mais cette parole, elle nous sauve aujourd'hui déjà. Elle nous sauve de nos tendances qu'on peut avoir, de ce qui nous conduit et avec lequel et par lequel on ne veut pas être conduit en fait. Cette parole, elle peut nous sauver de ça. Il faut l'écouter. Il faut faire preuve de sagesse. Il faut également la mettre en pratique. Et c'est le troisième point. Résister, écouter la sagesse et la mettre en pratique. Et c'est le titre de la série, croyant et pratiquant. Quand on a partager nos idées avec les prédicateurs qui vont intervenir sur cette série. C'est vraiment ce qui nous a retenu concernant le livre de Jacques. L'invitation à mettre à la pratique. Et là, c'est clair. Il ne s'agit pas d'écouter et d'en rester là. Il ne s'agit pas de venir à l'église dimanche après dimanche et puis repartir et vivre sa vie comme si rien ne s'était passé. Et rappelez-vous du contexte. Ces croyants, ils sont disséminés partout, ils se réunissent avec des gens qui n'ont pas la même foi qu'eux. Pour eux, ça leur parle. Ceux qui partagent les bancs de la synagogue avec eux, ils ne sont pas tous d'accord avec eux. Pourtant, ils écoutent la même chose. Qu'est-ce qui va faire la différence là où je suis, même quand c'est dans la communauté chrétienne, même quand c'est dans la communauté religieuse, même quand c'est à l'église? Celui qui vient, même régulièrement, pour s'asseoir et écouter avec attention, avec assiduité, et qui croit que ça suffit pour plaire à Dieu, Jacques est dur, il dit qu'il s'illusionne lui-même. Il se ment à lui-même. Tu crois que tu plais à Dieu parce que tu viens régulièrement? Ce qui compte, c'est plus profond que s'asseoir dimanche après dimanche, sabbat après sabbat. Et Jacques reprend une thématique du sermon sur la montagne, cette grande prédication de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin de sa prédication, Jésus conclut avec une parabole, la parabole des deux maisons. Et la leçon de cette parabole, c'est que écouter seulement les paroles de Jésus, c'est comme bâtir une maison sur du sable, sans fondation. Dès que la tempête souffle, tiens, pour reprendre le vocabulaire de Jacques, dès qu'il y a une épreuve, elle s'effondre. Alors que pour construire sur des fondations, c'est celui qui écoute et qui met en pratique, dit Jésus. Jacques dit la même chose, il va même plus loin, il explique ce que Jésus a voulu dire. Écouter et mettre en pratique, c'est comme un homme qui découvre son visage, mais oublie qui il est. Quelle serait l'utilité d'une telle pratique? Quand j'étais jeune, j'avais des cheveux. Faites gaffe, ça vient, on ne maîtrise pas, hein, c'est une épreuve. J'avais des cheveux et j'avais des épis. Quand je me levais, c'était assez folklorique, ça partait un peu partout. Et quand je me regardais dans le miroir le matin en me levant, je découvrais ça. Et il fallait passer un certain temps avec de l'eau pour aplatir, pour être présentable. Au moins un avantage pour aujourd'hui. Mais j'avais besoin de me regarder dans le miroir. Je ne pouvais pas au hasard. Et c'est la même chose. Lorsqu'on lit la Bible vient pointer sur là où on a des épis, là où il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Et si après avoir lu, on la referme et on passe à autre chose, sans utiliser ce qu'on a vu, mais ça ne sert à rien. La parole est-elle un miroir qui révèle ce qu'il y a dans le cœur et les comportements, mauvais désirs, méchanceté? Et le but, c'est d'attaquer ça, d'attaquer ces comportements. Mettre en pratique. Mettre en pratique, c'est arrêter de parler pour mettre en pratique. Alors on peut parler pour critiquer les autres, ça c'est bien d'arrêter. On peut parler aussi pour donner des bons conseils aux autres, mais soit rien faire. Et ça aussi, c'est quelque chose à arrêter. Parler moins, faire plus. Et il y a autre chose encore qui est extrêmement important pour Jacques. Quand on va mettre en pratique, on va aider le pauvre. S'occuper des orphelins et des veuves. Aujourd'hui, la veuve et l'orphelin dans notre société, ce n'est pas forcément quelque chose qui qu'on a toujours sous les yeux. C'est une expression qui fait plutôt partie du folklore, mais aujourd'hui, parmi nous, on a des gens qui sont divorcés et parfois des femmes qui, dans cette situation-là, se trouvent sans revenus ou alors avec des revenus amputés par des ex-conjoints qui ne participent pas alors qu'elles ont une famille dont elles s'occupent. Il y a aussi des migrants qui se sont déplacés et dont les parents sont loin, qui ne peuvent pas les soutenir et qui ne sont pas encore ou mal pris en charge par le système social de notre pays parce qu'ils sont arrivés il y a peu de temps. Il y a des gens qui sont pauvres parmi nous, à côté de nous. Puis il y a des gens qui sont dans une autre pauvreté, dans une pauvreté morale, dans une pauvreté psychique. Pour qui nous pouvons être aussi une force, pour qui on peut donner pour aider à sortir de cette pauvreté. C'est quelque chose auquel nous sommes invités lorsque nous mettons en pratique ce que nous lisons. Et c'est même, je dirais, participer à un mouvement de ce que fait Dieu. Je ne sais pas si ça vous a attrapé lors de la lecture, que le frère ou la sœur pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève et que le riche de ce que Dieu l'abaisse. C'est un thème majeur dans la Bible, l'élévation du pauvre et l'abaissement du riche. Il y a une prophétie dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, le prophète, Dieu, à travers le prophète, écrit, dit « Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. » Ce mouvement conjoint d'élévation et d'abaissement est un nivellement pour mettre tout le monde au même niveau. Il ne s'agit pas de porter tout le monde au niveau des plus riches, sans doute parce que cette richesse est signe de l'inégalité qu'il y a dans notre monde. Si le pauvre l'est, ce n'est pas toujours à cause de son incompétence, parfois ça l'est. Parfois, le pauvre avait de l'argent et parce qu'il a mal géré, il a tout perdu. Mais bien plus souvent, ça allait à cause de l'injustice de ce monde. Et ce mouvement de nivellement, il est particulièrement difficile pour le riche. C'est toujours plus difficile d'être abaissé qu'élevé. Il est nécessaire pour lui de lui rappeler qu'il est mortel, qu'il passera comme chacun. Que ni sa beauté ni ses activités ne le protègent. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une invitation à la fierté. Soyez fiers d'être élevés, soyez fiers d'être abaissés. Soyez fiers de Dieu, parce que Dieu fait un monde plus beau, Dieu refait le monde plus beau, et vous y participez. Nous avons la possibilité, mes amis, de participer à l'œuvre de Dieu dans ce monde. Non pas qu'il ait besoin de nous, mais qu'il nous donne cette possibilité. On peut conclure ici. Il y a les trois sujets qu'on a vus, c'est un peu les trois grands sujets de l'épître de Jacques. La richesse et la pauvreté comme mise en pratique, et ça ce sera la semaine prochaine avec Damien. La sagesse et l'usage de la parole, la semaine d'après avec Nicolas, et l'épreuve et la tentation avec Simon. Mais aujourd'hui, si je devais donner un titre à cette prédication, un titre à ce texte que nous avons lu, ce serait « Résiste, existe ». Existe, vit la vie voulue par le Créateur. La loi est parfaite et elle donne la liberté. Elle affranchit. Elle permet de se libérer de ce qui nous entrave et d'être heureux. D'être endurant, de ne plus être ballotté, mais de prendre le contrôle de sa vie, de travailler avec Dieu. Parce que vivre selon le mode d'emploi du Créateur, ça nous rend heureux. Là est la vraie joie. Là est l'existence, la vraie. Mais pour ça, nous avons besoin de sagesse. Et je répète cette parole tellement belle de Jacques. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Et on n'a pas trop l'habitude de faire ça dans notre Église, mais j'aimerais vous proposer, si vous le souhaitez, après le culte, de prier pour vous, pour ceux qui le souhaitent. Si vous aspirez à cette sagesse, si vous avez une difficulté à faire face à l'épreuve ou à faire face à la tentation, ou si c'est difficile de mettre en pratique ce que vous avez entendu, si vous voulez recevoir cette sagesse, eh bien, vous pouvez venir, on se tiendra là avec les anciens et on pourra prier pour vous, pour que vous puissiez prier avec vous, devrais-je dire, pour que vous puissiez vous engager sans retour en arrière, sans être ballotté par tous les vents. Je vais prier. Seigneur, par ton Fils Jésus-Christ, tu nous accueilles, tu nous fais un cadeau merveilleux, celui de la grâce, celui de pouvoir être avec toi, celui d'avoir la vie éternelle, et nous n'avons rien à faire pour le recevoir. Nous te remercions de cela. Mais Seigneur, l'apôtre Jacques que tu as choisi vient nous titiller. Vient nous appeler à être conséquents avec la vie que nous avons choisie. Et j'aimerais te prier que tu nous aides à cela. J'aimerais te prier que tu nous aides à mettre en pratique ce que nous entendons dimanche après dimanche, ce que nous lisons dans ta parole jour après jour. Et j'aimerais te prier que tu nous aides à être ce que tu veux que nous soyons, différents dans le monde où tu nous as placés, témoins, signes de ton royaume, de la façon dont tu veux les faire les choses, non pas seulement à travers ce que nous disons, mais surtout à partir de ce que nous faisons. Aide-nous à résister à un laisser-aller qui peut nous entourer pour être ferme en toi. Je te prie au nom de Jésus. Amen.